vous reprendrez bien un peu de science-fiction. La flotte miraculeuse. Dernier message en date du commandement de la vigilance orbitale du 25 mars 2347. Les vaisseaux Longin, Césarion, Kobayashi et Charlotte sont de retour en orbite lunaire dans le cadre des règles de quarantaine. Le nombre de rescapés n'est pas encore déterminé. Toutefois, l'équipage du Longin signale le décès de leur officier principal, le commandant Debourg. Les circonstances du décès ne sont pas encore connues. Une équipe d'enquête est en route pour le Longin. Depuis la révolution du moteur à plasma, l'exploration spatiale a subi un énorme bouleversement. Positif, le bouleversement. Les voyages spatiaux se font à une vitesse encore jamais imaginée. Aller sur Mars demande moins de 2 semaines. Jupiter, 1 mois. 3 pour Neptune. Non seulement on peut aller vite, mais pour pas cher en plus. Au point que même les opérateurs privés se jettent sur le créneau des voyages abordables, même au commun des mortels. Les croisières vont se multiplier dans le système solaire et des colonies viables vont s'implanter sur plusieurs planètes et satellites. Mais au bout de quelques décennies, ça ne va pas suffire et des projets de voyage en dehors du système vont fleurir. Quasiment aucun ne sera d'ordre récréatif. Qui voudrait aller au-delà de Pluton pour y croiser au milieu de... rien. Aucun intérêt pour les touristes. Par contre, les programmes d'exploration vont pouvoir profiter du plein potentiel de la propulsion à plasma. Les planètes les plus proches sont encore très éloignées, mais avec la capacité d'accélération de ce nouveau moteur, les vitesses vont permettre d'envisager des expéditions de quelques années au lieu de plusieurs décennies comme estimé auparavant. Proxima du Centaure devrait être atteignable en moins de 10 ans. Certes, cette durée reste énorme, mais les progrès dans d'autres domaines, comme l'hibernation, permettent de sérieusement programmer une mission viable sur une échelle humaine. Ce qui sera le cas en 2198. Ce sont des conditions bien particulières pour entreprendre ce genre de périple. Les membres d'équipage sont en général célibataires et sans trop d'attaches sur Terre. Car, paradoxe du voyage à haute vitesse dans l'espace, le temps ne va pas se dérouler à la même vitesse dans le vaisseau et sur Terre. Pour faire simple, quand vous serez de retour, toutes les personnes que vous connaissiez ou presque ne seront plus là. On va voir apparaître une génération de scientifiques orphelins, quasiment programmés pour faire partie de ces voyages au long cours. État d'esprit particulier mais ô combien pratique pour les planificateurs des missions en dehors du système solaire. Une autre approche de ce genre de voyage va apparaître quasiment dans le même temps. Si c'est compliqué de laisser sa famille derrière soi quand on part, on n'a qu'à l'emmener avec soi. C'est simple pourtant. Mais 2 questions parmi tant d'autres vont se poser rapidement. Déjà, jusqu'à quel niveau sa famille s'étend ? Une personne n'est pas forcément enfant unique. Elle peut être mariée et avoir des enfants. Ses parents peuvent être encore en vie. Et donc, qui part avec vous? Le conjoint, les enfants, la famille du conjoint, les parents du conjoint, c'est sans fin. Et on peut y ajouter les amis. Un chercheur en psychologie avait, après moult calculs, annoncé que pour que l'équilibre soit parfait dans le ratio équipage-relation, il fallait 24 personnes par membre d'équipage. Les premiers vaisseaux à l'étude prévoyaient un équipage de 500 personnes entre les membres chargés du vaisseau et les explorateurs. Certains de ces postes pouvaient être mutualisés, mais à une petite échelle, ce qui donnait un nombre astronomique, sans mauvais jeu de mots, de 12 000 personnes à caser à bord d'un vaisseau. Faire vivre 12 000 personnes dans un vaisseau pendant une mission de 10 ans, temps interne de celui-ci, sans avoir droit à la moindre erreur, c'est d'un point de vue statistique impossible. L'idée fut vite abandonnée, mais pas par tout le monde. Il y a une catégorie de la population qui va voir ça comme une opportunité. À ceci près que pour ces personnes, le voyage sera à sens unique. Aucune intention de revenir sur Terre. À cette époque, il existe plusieurs congrégations religieuses. Elles vivent en marge de la société, en opposition totale de cette dernière qui aurait tous les vices inimaginables. Pour ces communautés, ce genre de voyage est une bénédiction. Elles vivent en vase clos. Le nombre de personnes en relation est déjà défini. Elles ne trouvent pas leur place sur Terre. Elles vont donc chercher un nouvel Éden pour y façonner un monde selon leurs souhaits. Les terriens hérétiques ne les écoutent pas, pas grave. Peut-être que les autres mondes seront plus ouverts à leur prosélytisme. Seul écueil, le niveau technique des habitants de ces communautés n'est pas très élevé. Loin du niveau requis en tout cas pour piloter un vaisseau et le faire fonctionner correctement. Simple détail, ils ont tout le temps. La génération suivante va être poussée à faire des études de plus en plus hautes. Et trois générations plus tard, ces congrégations vont compter parmi elles les meilleurs talents dans le domaine du voyage spatial. La communauté du salut évangélique des cieux sera la première à quitter la Terre dans son entièreté à bord du Saint-Christophe, logique. Ce vaisseau-monde, comme on l'appelle, est un immense cylindre de 2 km de long et 200 mètres de diamètre. Il tourne sur son axe pour générer une gravité artificielle quasiment égale à celle de la Terre. Des habitations ont été implantées sur les parois courbes du vaisseau. Ce qui fait que lorsque vous êtes à la porte d'un de ces logements et que vous levez la tête, vous voyez le sol monter vers où doit se situer normalement le ciel, mais sans s'arrêter. Le ciel n'est plus au-dessus de vous, mais au bout du vaisseau, là où se trouve le « soleil », entre guillemets. Il faudra un peu de temps aux 14 563 passagers pour s'acclimater. Leur départ, le premier du genre, va faire causer. Les gens vont être à la fois impressionnés par cette aventure et soulagés de voir partir ces grenouilles de bénitiers. Cette expédition va faire les gros titres de la presse tant que le vaisseau sera observable par des instruments basés sur Terre. Bon, déjà une fois passé l'orbite lunaire, l'intérêt va diminuer très vite. Pourquoi suivre les aventures de pèlerins qui ne reviendront jamais ici ? Quelques voix vont tout de même s'élever quant au sujet des enfants embarqués dans cette aventure. Ils n'ont pas vraiment eu le choix que de suivre leurs parents. Une législation laxiste du Colorado, où était basée la congrégation, laissait les coudées franches aux parents. L'endoctrinement des enfants fera le reste. Ces derniers clamant haut et fort qu'ils étaient ravis d'être les élus à qui reviendra la lourde mais belle tâche de coloniser une nouvelle planète. Qu'ils arriveraient dans un nouveau jardin d'Éden et que eux, ne ferait pas les erreurs qui ont poussé Adam et Ève hors du paradis. L'affaire étant entendue, tout le monde monte dans le vaisseau et hop, direction Alpha Laurenti 5, nom officiel de cette planète, mais déjà baptisé Nouvel Éden par les dirigeants de la communauté religieuse. Et c'est parti pour 10 ans de voyage, pour eux. Beaucoup plus du point de vue des terriens. Paradoxe de la relativité oblige. Une semaine après le départ, la curiosité pour ce périple faiblit déjà. Au bout d'un mois, plus rien. Un an, tout le monde les a oubliés. Ils ont été remplacés dans l'actualité par d'autres expéditions du même tonneau. Mais une fois passée l'excitation du premier départ, cela devient une information banale parmi tant d'autres. Au bout du cinquième, c'est un non-sujet. Au grand désespoir des membres de ces expéditions, qui aimeraient avoir une tribune pour démontrer aux païens combien leur démarche est salutaire et que les rejoindre dans cette aventure leur garantirait une place de choix dans ce nouveau monde. Loupé. Officiellement, 9 expéditions religieuses sans retour seront lancées. Mais pas une de plus. Par manque de moyens, certes, car un vaisseau monde coûte une fortune, mais aussi par manque de retour médiatique. Les dirigeants de ces congrégations ayant parfois un besoin de reconnaissance au-delà de leur communauté. Pendant ce temps, à bord du Saint-Christophe. Tout se déroule parfaitement. Les passagers non essentiels sont en hibernation de longue durée. Les membres d'équipage font des cycles sommeil-travail d'une année pour assurer les rotations au poste critique et ainsi faire travailler tout le monde de façon équitable. Et au bout de 10 ans, voilà le vaisseau en orbite autour d'Alpha Laurenti 5. Et c'est à partir de ce moment que ça va commencer à sentir le roussi. Ah, j'ai oublié de vous présenter Casper Tomins, leader spirituel de la congrégation et autoproclamé commandant du Saint-Christophe. De commandant, il n'en aura que le titre, vu qu'il passera la quasi-intégralité du voyage en hibernation. Casper est le dernier rejeton d'une lignée qui aura fondé et dirigé la communauté du salut évangélique des cieux. Cette dernière a été fondée 140 ans plus tôt par un aïeul fervent catholique qui, lassé des turpitudes supposées du monde, ira se terrer au fin fond du Colorado avec des amis dans un sanctuaire de la foi. Jusque-là, cette communauté, bien que prospère mais extrêmement discrète, menait son petit bonhomme de chemin. Elle n'attirait pas l'attention du public ou des autorités. Pas ouverte sur le monde, mais pas sectaire. Une communauté parmi de nombreuses autres. Jusqu'à ce que le grand-père de Casper, Archibald, féru de science, ne voit dans la révolution du moteur à plasma le signal pour le grand projet de sa vie. Fonder un nouvel Éden. Archibald n'aura pas beaucoup de mal à vendre son idée. Il était terriblement charismatique et son audience était conquise d'avance. Et c'est son petit-fils, Casper, qui aura l'insigne honneur de guider ses adeptes vers ce nouveau monde. Casper n'a pas l'aura de son grand-père, mais il va capitaliser dessus et mener sa barque sans trop de problèmes. Il faut dire que tout était programmé et le projet sur des rails depuis bien avant sa naissance. Il n'avait qu'à suivre le carnet de route, ce qu'il va faire avec application, voire aveuglément. Il y a juste un détail que personne n'a relevé, au moins au départ du voyage. Il n'y a aucune navette pour aller du Saint-Christophe vers la surface d'Alpha Laurenti 5. Et ça n'a choqué personne lors de la conception non plus. La solution est simple, mais terriblement hasardeuse. Lors de la conception du vaisseau, Archibald en a dessiné les plans avec instruction formelle de les suivre à la lettre. 20 ans plus tard, les ingénieurs en charge de sa fabrication vont découvrir des choix de structure étonnants. Mais sans Archibald pour éclairer leur lanterne et un Casper répétant à l'envi qu'il fallait suivre les plans, ils ont suivi bêtement les ordres et ont construit un vaisseau particulièrement robuste et lourd, à l'opposé des réalisations contemporaines beaucoup plus graciles et légères. Les ingénieurs, allant de suppositions en hypothèses, pensaient que c'était pour prévenir tout contact brutal avec des astéroïdes. Hypothèse séduisante, mais totalement fausse avec le recul. Certes, le risque de croiser la route d'un caillou dans l'immensité d'espace est proche de zéro, mais dans le cas où ça arriverait, les vitesses engagées sont telles que n'importe quel vaisseau, fût-il blindé, serait vaporisé par l'impact. Mais les ingénieurs n'avaient pas complètement tort. Il va bien y avoir un contact, et il sera brutal. À ceci près que ce sera avec la surface d'Alpha Laurenti 5. Rien que ça. Comme Hernán Cortés en 1519 qui, arrivé sur les côtes de Veracruz au Mexique, fera brûler les vaisseaux pour empêcher tout retour en arrière, Casper, suivant toujours les ordres de son grand-père, va faire plonger le Saint-Christophe dans l'atmosphère de la planète. Et, toujours comme Cortés, il ne va pas l'annoncer brutalement. Les passagers auraient alors peut-être eu le sentiment diffus mais pesant que c'était une bonne grosse idée de merde. Et je ne leur jetterai pas la pierre. Archibald également avait prévu le coup. C'est un bug malencontreux, avec beaucoup de guillemets, dans le programme de navigation du vaisseau, qui le fera foncer vers Alpha Laurenti 5, et ce malgré les efforts désespérés de l'équipage. Un instant, le vaisseau est calme, tout le monde est réveillé et contemple ce nouveau monde par les baies d'observation. La seconde après, c'est le chaos. Sirènes, grincements, hurlements, lumière rouge dans toutes les zones. Ça court dans tous les sens, ça se bouscule, ça tombe, c'est la panique. Le vaisseau plonge à 45 degrés dans l'atmosphère. La gravité artificielle a du mal à compenser, l'intérieur du Saint-Christophe devient un toboggan géant. De l'extérieur, un éventuel témoin verrait une énorme boule de feu traverser les cieux, suivie de petites étoiles très brillantes. Ce sont des morceaux du vaisseau qui se détachent, et qui entraîne avec eux quelques malheureux colons. La chute semble durer une éternité pour les passagers. L'équipe de pilotage, elle, a le droit de voir la planète se rapprocher très, trop vite. comme par miracle, le vaisseau se redresse et le choc est moins rude que redouté. Moins rude, tout est relatif. Les parties basses du vaisseau sont alors écrasées du contact avec le sol, des sections entières sont arrachées. Comme pour parachever le tableau déjà bien sombre, vous vous souvenez que le vaisseau est circulaire et que le plancher couvre toute la circonférence. Ceux qui se trouvaient en haut, entre guillemets, vont au fil de la descente se retrouver assujettis à la gravité d'Alpha Laurenti 5. Pas la peine de vous expliquer ce qui va leur arriver. Le terrain, relativement meuble, va épargner une dislocation totale du Saint-Christophe. Casper va prendre alors connaissance d'un message préenregistré une fois que le vaisseau aura fini sa course sur la surface. Il va ainsi voir apparaître sur un écran son grand-père qui va lui dire que tout ça a été organisé, réglé au poil de cul. La chute du vaisseau devra être présentée comme une épreuve pour tester la foi des colons. Que Dieu s'est rendu compte que certains d'entre eux avaient faibli et commencé à douter de la finalité de cette expédition. Qu'une nouvelle société ne pouvait se laisser corrompre par des esprits faibles. Ceux qui avaient péri étaient en quelque sorte les victimes expiatoires, le tribut à payer pour que les égarés rejoignent le bon chemin et que la mémoire des disparus soit honorée. Casper n'avait pas été prévenu de l'intégralité du plan pour que sa réaction devant la catastrophe imminente soit la plus honnête possible. Et aussi, mais ça Archibald ne le dira pas, qu'il n'avait qu'une relative confiance dans ses successeurs. Et plus cynique encore, le nombre des passagers avait été surestimé, histoire que les pertes causées par le crash ne mettent pas en péril l'équilibre de la colonie. Les voix du Seigneur, machin, tout ça. Casper, dans un discours enflammé, va les exhorter à trouver au fond de leur âme la force de se relever de cette épreuve et de se réjouir d'être parmi les élus de cette terre nouvelle. Une fois les conséquences du crash réglées, les colons vont commencer à monter les abris et fonder l'avant-poste de la colonie. Entre prières et travaux de construction, la ville d'Archibald, en l'honneur de l'initiateur de ce projet, se développe gentiment. Au bout de 3 mois, tous les colons ont enfin un toit au-dessus de leur tête. L'exploration d'Alpha Laurenti 5 peut commencer. Avant de se lancer vers cette planète, toutes les analyses avaient été réalisées pour savoir si elle était habitable. Et bingo, elle faisait partie de la petite liste des planètes viables pour les humains. De plus, pour pouvoir s'y poser, il fallait s'assurer qu'aucune vie intelligente s'y était développée. Article 1 des expéditions vers les exoplanètes. Aucun monde habité par une espèce intelligente ne doit être accédé. Bien évidemment, la définition de l'intelligence a fait l'objet d'âpres débats. Tout ceci pour dire que toute trace de civilisation est rédhibitoire pour une exploration. Que la civilisation soit plus ou moins évoluée. Alpha Laurenti 5 fait partie de la catégorie des mondes accessibles. Mais il y avait comme un biais dans cette charte. Elle était dépendante de la qualité des analyses qui lui sont fournies. Et il faut bien l'admettre, les premiers processus de contrôle n'étaient pas si fiables. 4 mois après leur arrivée, les premiers symptômes vont apparaître. Maux de tête, migraines, état dépressif. Certains colons sont la proie d'un abattement profond. Les rares colons ayant une formation en psychiatrie sont vite débordés. Les antidépresseurs sont épuisés en moins d'un mois. Casper est dépassé par la situation et sa seule réponse est d'organiser des séances de prière. Archibald ne lui a rien dit à ce sujet. 2 mois plus tard, ce sont les 3/4 de la colonie qui sont la proie de cette affection mentale. Plus rien ne va. Les constructions sont à l'arrêt, tout comme l'exploration des alentours. Les rares colons indemnes ou peu touchés sont au chevet des malades. Chaque matin, on redoute d'être le suivant sur la liste des dépressifs. On craint d'être touché par ce mal qui s'apparente de plus en plus à une sanction divine. Ceux qui peuvent encore se rebeller mettent en doute les capacités de Casper à gérer la crise. Ce n'est qu'une question de jour pour voir un petit groupe aller demander à Casper de laisser sa place pour calmer Dieu. Un soir, un groupe va voir Casper pour le destituer. La discussion est tendue, le ton monte très vite et ils en viennent aux mains. Le module d'habitation de Casper résonne des coups et des cris. Quelques témoins effrayés se rapprochent. mais pas trop quand même. Ils sont tellement concentrés sur l'altercation qu'ils n'entendent pas arriver derrière eux une dizaine de personnes en scaphandre. Ce n'est que quand ils entrent dans leur champ de vision qu'ils sursautent et hurlent, à tel point que leurs cris surpassent le brouhaha dans le module de Casper. La bagarre s'arrête pour que chacun puisse tendre l'oreille. La surprise est totale quand un homme en scaphandre apparaît à la porte. Il s'agit du commandant Debourg, du vaisseau Longin. Les colons commencent à croire à une hallucination collective et il faudra toute la patience du commandant pour les calmer. Il est ici à la tête d'une flotte de plusieurs vaisseaux pour leur porter secours et les évacuer. Pour les colons, c'est incompréhensible. Ils n'ont pas émis de signal de détresse et de toute façon, il aurait mis plusieurs années avant d'arriver à la Terre. Debourg va leur faire un rapide condensé de l'évolution des voyages spatiaux depuis leur départ, il y a 65 ans en temps terrien. Et oui, la relativité est toujours machin. Le moteur à plasma, tout révolutionnaire qu'il soit, ne sera qu'une étape dans le progrès de la propulsion. Il sera surclassé par la distorsion 35 ans plus tard. Le rêve ultime de l'industrie spatiale, voyager plus vite que la lumière. Le rêve sera devenu réalité. Autant dire que ce sera open bar pour le voyage spatial. Et aussi la possibilité de trouver la trace du Saint-Christophe et de savoir ce qu'il est devenu. Une sonde automatique va le retrouver, ou du moins ce qu'il en reste, sur Alpha Laurenti 5. Mais la sonde va trouver aussi autre chose qui avait échappé aux premières études. Une espèce autochtone, des herbivores qui ressemblent un peu à des capybaras. Indolents, mais qui possèdent une force psychique terrifiante, qui serait à l'origine de l'état mental des colons. Une contamination cérébrale qui devrait cesser dès qu'ils seront assez loin de cette planète. Une mission de secours est alors organisée pour aller chercher les malheureux et aussi ne plus interagir avec les animaux dans l'esprit de la charte des expéditions. C'est Debourg qui se portera volontaire pour cette opération de sauvetage qui a des accents de mission suicide. Mais l'honneur de ce marin des cieux est le plus fort. Son expérience forgée par des années de pilote d'essai et de commandant de vaisseau en zone de combat sera la bienvenue pour cette mission. Et il faut faire vite, car même avec le scaphandre conçu pour bloquer les ondes et toutes sortes de composés chimiques, les sauveteurs ne sont pas forcément à l'abri d'une contamination. Pour la majorité des colons, c'est un soulagement. Leur conviction a été ébranlée par cette affliction, certains avaient même eu des pensées suicidaires. Fort heureusement, les secours sont arrivés à temps. L'évacuation se fait dans le calme, par navette, vers les vaisseaux en orbite. Certains colons sont réticents et promettent de revenir plus tard pour faire entendre la bonne parole à ces animaux. Les sauveteurs se réservent bien de les contredire, mais Alpha Laurenti 5 sera désormais interdit d'accès. Définitivement. Un dernier groupe d'irréductibles va toutefois résister. Casper semble lui aussi avoir été touché par cette contamination mentale. Il a convaincu ce groupe que ces « sauveteurs » entre guillemets étaient des envoyés du diable. Le nom du vaisseau, le Longin, finira de les convaincre. Il faudra employer la force pour les faire grimper dans la dernière navette en partance. Au prix d'efforts considérables, Debourg et son équipe vont sangler tout ce monde sur les sièges de la navette. Fermeture de l'écoutille et décollage. Au bout de 3 minutes de vol, ému par une force qu'on ne lui connaissait pas jusque-là, Casper rompt ses liens et attaque les sauveteurs. C'est alors une course contre la montre qui s'engage entre Casper et ses comparses qui mettent KO les membres d'équipage les uns après les autres, et Debourg qui essaye d'atteindre le Longin au plus vite. Une fois à bord du vaisseau, d'autres équipiers pourront maîtriser Casper. C'est ce dernier qui va gagner. Il attrape le commandant par le cou, le met hors service et prend les commandes de la navette. Il fait demi-tour et retourne vers la planète. Dans sa folie, il va perdre le contrôle et l'engin va percuter la surface. La violence de l'impact est telle que personne ne survivra au choc. Par mesure de sécurité, aucune mission de récupération ne sera organisée. Plus personne ne foulera la planète qui sera dorénavant le tombeau commun d'un fou et d'un héros.